Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus particulier que parce que d'habitude, on a donc des personnes et des personnalités qui sont engagées politiquement. Mais cette fois-ci, nous avons accueilli des personnes qui travaillent de manière active dans le monde politique, dans le terme le plus général possible. J'ai avec moi Patricia Heidegger, qui est secrétaire générale adjointe au sein de l'EEB, et Adrien Licha, coordinateur du secrétariat au sein de l'ALDA. Et ces deux personnes avec des organisations qui sont donc que des lettres, ça paraît très abstrait, on va peut-être d'abord expliquer ce que c'est ces organisations. Le EEB, qu'est-ce que c'est, Patricia?
Alors, le BEE ou le EEB en anglais, European Environmental Bureau, c'est la plus grande fédération des ONG dans tout ce qui est environnement en Europe. On a 180 membres. Ce sont des ONG dans tous les pays de l'Union européenne et dans le reste de l'Europe. Quelques-unes qui sont très petites, des autres qui sont assez grandes, qui travaillent sur tous les sujets environnementaux, climat, etc. D'autres qui travaillent sur des problèmes plutôt particuliers. Alors, c'est une grande famille qui représente le mouvement environnemental au niveau des institutions européennes.
Alors, moi, de ce que j'ai entendu de EEB, elle est un peu cette organisation qui est une sorte d'organisation parapluie et un peu une référence dans le monde de l'Europe et dans le monde de la lutte écologiste politique. Est-ce que tu pourrais confirmer ça ou pas?
Il y a plusieurs fédérations, il y a plusieurs organisations environnementales qui sont présentes ici à Bruxelles. Mais c'est vrai que le EEB, on est là depuis les années 70, quand l'Union européenne a commencé à créer des politiques pour l'environnement. Et à l'époque, les ONG qui étaient dans les États membres se sont dit, alors, OK, si maintenant nos politiques pour l'environnement sont faites à Bruxelles, il faut qu'on est là, il faut créer une fédération. On est certainement parmi les ONG les plus âgés à Bruxelles, enfin au niveau européen. On va fêter les 50 ans l'année prochaine. Je pense qu'on peut dire qu'on est une référence si on parle de la politique européenne pour l'environnement.
Adrien, toi tu travailles pour l'ALDA. Alors de nouveau, plein de lettres, mais qu'est-ce que c'est l'ALDA?
Alors l'ALDA, à l'origine, c'était l'association pour les agences de la démocratie locale. Les agences de la démocratie locale ont été initiées par le Conseil de l'Europe il y a une trentaine d'années pour recréer du lien entre les organisations de la société civile et les autorités locales dans les Balkans, donc dans un contexte post-conflit. Et en fait, partant de là, on a accumulé une grande expérience sur la participation citoyenne et la démocratie locale. Et c'est pour ça que notre nom a finalement évolué pour devenir l'Association européenne pour la démocratie locale. Mais on a souhaité garder ce sigle ALDA comme un témoin de notre histoire aussi et de notre attachement à cette région des Balkans.
Je pense que ça vaut quand même la peine d'expliquer ce que c'est démocratie locale.
Alors, c'est un concept assez large en tant que tel. Nous, on promeut une approche qui décrit un continuum démocratique, donc un espace civique dans lequel les citoyens peuvent s'exprimer, soit à travers un engagement direct avec les autorités, soit d'ailleurs en dehors de toute relation avec les autorités, mais dans l'occupation de l'espace public, ou encore à travers des organisations de la société civile organisées. Bien sûr, nous, on reste attachés à la démocratie locale aussi, telle qu'elle est pratiquée dans la démocratie représentative, avec des conseils municipaux élus, tels qu'on peut les connaître aussi en Belgique. Et voilà, on a commencé à travailler comme ça. Mais j'en profite pour donner une précision sur ces agences de la démocratie locale qui étaient installées. Elles sont des ONG enregistrées localement dans les pays là où elles sont implantées. Elles sont abritées, hébergées par des villes ou des collectivités, et elles sont animées par des activistes locaux qui, justement, peuvent identifier mieux les priorités que des grosses agences de développement des différents pays. Donc, voilà un petit peu l'approche avec laquelle on a débuté nos activités. Et c'est une approche qui malheureusement, revient sur le devant de la scène avec, les agressions qu'on peut connaître aujourd'hui en Ukraine. Puisque on se retrouve aussi dans un contexte de conflit où il y a de grands challenges sociétaux et cette alliance entre collectivités territoriales et sociétés civiles est particulièrement forte pour être résilient face à tous les défis qu'ils ont à rencontrer.
Les présentations sont faites, maintenant tout le monde sait de quoi on va parler, pas encore tout à fait, on va parler d'un projet européen un peu plus particulier, qui s'appelle Climate of Change. Comment ce projet est-il né ?
Alors, le mouvement et le projet Climate of Change est né de la conviction de plusieurs ONG à travers notre région, des organisations comme la mienne, qui travaillent pour la protection de l'environnement, des ONG qui travaillent sur le climat, mais aussi des ONG qui travaillent sur la démocratie locale et le développement durable, ensemble avec des chercheurs, des universités dans notre région. La conviction qu'ils font sensibiliser les Européens à la migration climatique, au fait que cette sorte de migration est déjà la réalité pour des millions de gens dans le monde entier. Et on s'est dit que cette forme de migration est encore très mal connue en Europe. On a créé cette campagne pour montrer et discuter que la migration induite par le changement climatique est un des plus grands défis dans le monde globalisé dans lequel on se trouve.
Moi, de ce que j'ai pu voir sur le site internet, ça avait l'air très digital. En discutant un peu avant ensemble, on parlait qu'il y avait quand même des choses très concrètes qui ont été faites. Est-ce qu'on pourrait un peu parler du projet, les différentes, peut-être les gros piliers de ce projet, et qu'est-ce qui est concret, peut-être un peu plus digital, comment vous avez conçu ce mouvement, si je puis dire, ce projet ?
Bon, je peux commencer par expliquer que on s'est dit dès le début que les jeunes ou la sensibilisation des jeunes, la mobilisation des jeunes va être au centre de notre projet. Une activité qui était réalisée dans tous les pays, les 13 pays dans lesquels on a réalisé ces projets, c'était un concours de débat. Alors, on a travaillé avec 1500 jeunes dans des écoles, des universités, aussi des centres de jeunesse qui ont participé dans les concours de débat, des débats sur les questions de la migration climatique. En décembre 2021, on a organisé un concours de débat, enfin la grande finale du concours ici à Bruxelles. Alors, on a reçu des délégations des 13 pays avec les gens, les jeunes gagnants des 13 pays. Et en novembre l'année dernière, on a invité les gagnants du concours à devenir nos ambassadeurs pour nous joindre en Égypte pour le COP 27, enfin le Climate COP, pour parler de leurs expériences et de parler de la migration climatique, de leur perspective des jeunes en Europe.
On parlait de débat, on parlait donc d'amener les jeunes dans d'autres pays et vraiment les intégrer dans ce projet. J'ai aussi entendu parler, avant l'émission, on parlait de troupes de cirque. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Adrien ?
Oui, tout à fait. Alors, on s'est dit que pour engager les gens justement cette activité de sensibilisation, il fallait aussi apporter ça de manière un peu ludique. Est venue cette idée donc de travailler avec une troupe de cirque qui a monté un spectacle autour de cette question de la migration climatique et qui a circulé en fait dans les 13 pays du projet, avec à chaque fois, à chaque étape, discussion, un engagement avec les différents jeunes sur place qui permettaient en fait d'approfondir un petit peu justement, et de ne pas avoir quelque chose qui soit simplement de l'information, mais quelque chose aussi qui touche de manière un peu plus profonde et qui peut éveiller la curiosité.
Tout ça, donc, vous l'avez mis dans un projet, et on en parlait juste avant, un projet qu'on appelle parfois DIR. Qu'est-ce que ça veut dire, ce projet DIR ?
Oui, donc un projet DIR, c'est un projet qui cherche à sensibiliser les citoyens sur la coopération internationale. C'est financé par la Commission européenne et plus précisément par la branche dédiée à la coopération internationale. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très important aussi de notre point de vue en tant qu'ALDA. Cette idée que la coopération internationale n'est pas seulement une action à l'extérieur, mais aussi engage la société européenne dans une action elle-même. Et ça, je pense qu'avec un sujet comme la migration climatique, on a quelque chose qui est global, qui nous touche tous, même si effectivement les manières dont cela nous touche sont différentes selon les pays où on se trouve. Et justement, c'était l'occasion de pouvoir ramener justement sur le continent européen des perspectives qui viennent d'ailleurs et essayer de comprendre les enjeux à travers cette action. Donc ce programme nous a permis de mener des actions, on va dire, pilotes, qu'on espère pouvoir développer par la suite, et de conduire une campagne de sensibilisation de manière à ce que l'opinion soit un peu plus à même de suivre cette évolution.
C'est intéressant, vous avez donc un projet qui amène plusieurs pays. Il y a aussi, je suppose, des parties prenantes qui sont autres que juste l'ALDA et EIB. Est-ce que vous pouvez un peu parler des autres partenaires ? Est-ce que vous avez des exemples d'autres partenaires qui vous viennent à l'esprit quand on parle de ce projet ?
Oui, par exemple, on avait aussi des organisations qui travaillent avec des partenaires dans le sud, dans la coopération internationale, comme Oxfam, par exemple, qui est très connue. En Italie, on travaillait avec une organisation qui s'appelle WeWorld, c'est une organisation italienne, mais qui travaille avec des partenaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Mais en même temps, on a aussi travaillé avec des universités, par exemple l'université de Bologne, mais aussi l'université de Nicosie en Chypre, des universités où il y a des chercheurs qui s'intéressent à la question de la migration climatique.
Pourquoi c'est important de s'entourer d'académiciens quand on va avec un projet comme ceci, où on va parler d'écologie politique ?
En fait, je pense pour un tel projet, pour nous, c'était la première fois qu'on a travaillé avec des universités dans un projet de sensibilisation et de mobilisation. Mais surtout, si on parle d'un sujet où il y a aussi beaucoup... Un sujet qui est très politique, un sujet où il y a aussi des fake news, des débats qui sont très, très, très politiques. C'est important d'être capable de montrer des chiffres, des études qui montrent vraiment la réalité, par exemple, dans les quatre pays dans lesquels on a fait la recherche. Mais c'est aussi une possibilité pour les chercheurs d'utiliser leur recherche, leurs résultats dans une campagne de mobilisation. Parce que très souvent, les universités, ils n'ont pas forcément le lien avec des organisations qui font des campagnes, qui sont actives sur les réseaux sociaux. Et comme ça, c'est aussi une possibilité pour eux à faire le lien avec la vie politique, les institutions européennes, etc. Alors je pense que c'est une collaboration dont on profite les deux côtés.
Pourquoi c'était aussi important ? Parce qu'on parle ici donc de campagne de sensibilisation, on l'a répété plusieurs fois. Quel est le rôle que vous avez mis là-dedans, le poids de l'éducation ? Pourquoi vous avez fait de l'éducation un pilier dans votre projet ?
Ouais, c'est pas l'éducation formelle. C'est plutôt sensibilisation à travers les réseaux sociaux, à travers, par exemple, les débats, les concours de débats. Alors, c'est pas l'éducation formale, on n'a pas travaillé. Il y a aussi des projets de mobilisation, des sensibilisations qui travaillent, par exemple, avec les ministères d'éducation pour changer le contenu de l'éducation. On n'a pas fait ça. Mais on a cherché à engager les jeunes, par exemple parmi les débats, parmi les TED Talks, à travers les événements comme les spectacles du cirque. Alors c'est notre manière, notre façon d'éducation, c'est pas l'éducation formelle, c'est plutôt éducation à travers la sensibilisation des événements, des activités qui, on espère, qui sont intéressants pour les jeunes.
Rentrons maintenant un peu plus dans le sujet du projet en lui-même. Climate of Change, il a pris en point d'étude 4 pays particuliers. Donc nous avons le Sénégal, le Cambodge, le Guatemala et l'Éthiopie. Quand on cherche 2 petites secondes sur la migration climatique, ce n'est pas spécialement les premiers pays qui viennent et qui sont au top, le pire top qui existe peut-être, mais dans le top des plus gros afflux de migration climatique. Il y a l'Inde qui vient très vite, il y a la Chine, il y a aussi l'Indonésie et les îles plutôt dans le sud-est. Alors oui, il y a le Cambodge, mais pourquoi avoir pris ces 4 pays-là ?
À la fin, c'était le choix des chercheurs, mais comme tu as dit, il y a d'autres pays où on a parlé du changement climatique et aussi de la migration climatique déjà il y a 20 ans. Par exemple, quand j'étais étudiante, je travaillais au Bangladesh, c'était il y a 20 ans, et là déjà, il y avait beaucoup d'études sur le changement climatique, mais aussi les conséquences pour les gens qui habitent, par exemple, sur des îles dans les fleuves au Bangladesh et la migration climatique. Dans les pays qu'on a choisi, c'est un sujet qui n'était pas encore très bien cherché. En même temps, on a essayé de couvrir un peu les continents différents, aussi des pays très différents, des situations politiques très différentes, pour montrer que la migration climatique existe vraiment dans les 4 coins du monde et dans tous les paysages, dans toutes les sociétés. Et ce sont des pays où la migration climatique a aussi un impact dans les pays voisins. Parce que si on parle de la migration climatique en Europe, très souvent, on ne parle que de la migration qui arrive chez nous. Parce que ça, c'est ce qui nous concerne. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens qui sont forcés de quitter leur région, le pays, ils restent où dans leur pays ? Il change de région, il a des migrations vers les villes, vers d'autres régions, ou une migration transfrontalière vers le pays voisin, qui très souvent sont des pays qui sont aussi pauvres ou aussi vulnérables que le pays d'origine. Et on a voulu aussi montrer cette réalité-là.
Je suppose que vous avez voulu montrer cette réalité, peut-être parce qu'elle n'est pas assez mise en avant dans l'agenda politique ou l'agenda médiatique. Est-ce que vous avez peut-être une explication de pourquoi ce sujet n'est peut-être pas assez traité ?
Oui, I mean, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement politique, la question de migration, de manière générale. Et aujourd'hui, on a en fait deux angles dans ce sujet-là. On a à la fois la migration, qui est très controversée, avec de nombreuses mesures qui sont plutôt anti-migratoires. Et puis de l'autre côté, le sujet de l'environnement, qui est traité aussi d'une manière qui n'est pas forcément favorable à justement l'impact sur les populations, avec aussi un certain nombre de réticences dans la mise en œuvre des engagements qui sont déjà pris. Donc ça fait quand même déjà deux gros blocs de réticence sur les deux enjeux qu'on a souhaité traiter. Donc au niveau politique, ça pose un certain problème. Et au-delà de ça, je pense qu'on arrive aussi à une période où, effectivement, la question des fake news et des différentes campagnes d'information, des différents groupes de lobby qui sont appliqués, ont tendance à rendre très inaudible la voix, justement, des scientifiques, la voix des associations ou des collectivités qui souhaitent s'engager sur des sujets importants comme cela. Et pour la petite anecdote, on a essayé de porter justement avec ce projet les résultats et les différents contenus qu'on avait pu développer dans plein de villages. On a fait des festivals et on a été vraiment à la rencontre du public. Et parfois, on a été confronté en fait à des gens qui se retrouvaient complètement à accuser le projet d'être financé par les lobbies des voitures électriques et qui nous disaient « mais vous vous rendez compte, ce que vous faites est terrible, les voitures électriques polluent énormément, on en retrouve dans les lacs ». Et on s'est rendu compte en fait, dans certains milieux, on était véritablement confronté à toute une partie de la population qui avait cette perception extrêmement négative des enjeux climatiques ou des enjeux migratoires, sans pour autant laisser la place à un échange, on va dire, sur une base rationnelle. Et c'est pour ça que je pense qu'on s'aperçoit que c'est pas seulement une manque de médiatisation, mais aussi une sorte d'étouffement par un flot d'informations continues qui sont souvent pas maîtrisées.
Si je peux aussi commenter, c'est vrai que ce sont les récits les plus alarmistes qui dominent les médias, si on parle de la migration climatique. Et les migrants climatiques sont considérés comme une sorte de menace pour l'Europe. Et comme je viens de dire, la grande majorité des migrations, des déplacements dus aux catastrophes climatiques se passent dans le pays même ou entre des pays voisins. Et c'est aussi une réalité dont on ne parle presque jamais dans les médias en Europe. Et en plus, c'est aussi une question difficile parce que c'est une question qui pourrait nous coûter très très cher. Parce que nous, on a une responsabilité historique. Et si on se souvient des discussions à la COP 27 en Égypte et la COP avant en Écosse, la question des réparations, la question des soutenus financiers pour le pays qui sont le plus touchés par le changement climatique, ça reste une des questions la plus politique dans tout le discours du climat. Alors, les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde, dépensent deux fois plus pour armer les frontières, pour fermer les frontières contre la migration, que pour le financement de la lutte contre le changement climatique. Et on parle de murs climatiques, de climate walls. Et c'est aussi la réalité en Europe. Et ça rend ce discours très, très difficile.
Mais justement, donc, c'est un enjeu qui est global, qui est international. On a des organisations et des événements comme les COP, mais on a d'autres événements qui ont mis en avant certaines priorités législatives, certaines priorités européennes pour pouvoir mettre en avant ceci, cela. Mais de mon point de vue et d'un point de vue citoyen et citoyenne, on n'a jamais vraiment pu voir comment ces solutions ont pris réalité sur notre terrain. La migration climatique, en plus, c'est très abstrait. Pourquoi vous avez choisi d'aller vers un projet européen, alors que parfois, aller voir un maire, aller voir quelqu'un qui est beaucoup plus localisé, beaucoup plus national, quasi même une région régionale, vous avez donc quand même décidé d'aller vers des institutions européennes qui sont aussi très abstraites. Pourquoi avoir choisi de répondre à un projet européen plutôt que quelque chose qui est plus national, plus local ?
La réponse est relativement simple, c'est-à-dire que il faut agir à tous les niveaux. Nous, on travaille particulièrement au niveau local et on s'aperçoit que les collectivités, notamment sur les questions migratoires, agissent pour faire face aux défis qui leur arrivent. Elles font face à des populations qui les rejoignent sur leur territoire et elles ont immédiatement des comptes à rendre à leurs citoyens. Vous savez, des élus locaux, une administration locale, elle est sur son territoire quotidiennement confrontée à ses citoyens, donc elle est obligée de répondre. Elle répond, et bien souvent, elle agit dans une sorte de zone grise, parce que les législations nationales ne sont pas toujours adaptées à répondre aux situations d'urgence. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Ensuite, le niveau européen, justement, il permet d'harmoniser les différentes législations au niveau des États membres. Ça donne un petit peu les règles du jeu, disons. Et donc, c'est pour ça que pour nous qui sommes une association qui promeut les valeurs européennes et qui agit au niveau local, c'est important de lier les deux. Et dans le cadre de ce projet-là, il était particulièrement important de faire en sorte que l'opinion publique européenne soit sensibilisée et que les institutions prennent acte du fait que cette opinion publique soit sensibilisée. Donc ça, ça nous a paru un niveau pertinent d'action pour répondre à cet enjeu, même si effectivement c'est pas le seul moyen d'action et qu'on continue de travailler soit, la plupart du temps sur des termes séparés, soit sur la migration, soit sur les questions climatiques. Mais à mon avis, effectivement, il faut viser l'ensemble de ces niveaux-là.
Ok, c'est intéressant et ça m'amène quand même à l'autre question qui est, la Commission a quand même dû lancer un projet pour pouvoir mettre en avant la migration climatique. Est-ce que ça ne prouve pas, en quelque sorte, que l'Union européenne a failli jusqu'à présent sur ce thème-là, qu'on arrive à ce qu'ils doivent en fait faire des sortes de réparations ?
Alors, je pense qu'il faut, penser à la base, la Commission n'a pas véritablement lancé le projet. Ils ont accepté de financer ce projet-là. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le présenter aussi. C'est-à-dire que l'Union européenne est forte de sa société civile, de ses universités, de toutes les parties prenantes qui peuvent être engagées justement à faire l'Union européenne, à faire l'Europe, et à développer justement des politiques qui permettent d'avancer dans la bonne direction. Ici, il est vrai qu'on prend conscience ou on semble prendre acte d'un phénomène, mais il ne s'agit pas de dire que la Commission n'a pas agi ou pas suffisamment. On a demandé à la Commission d'agir plus, de continuer dans cette direction-là, mais je ne crois pas qu'on soit vraiment dans une culture de l'autoflagellation non plus de la part de la Commission. Je pense que c'est un choix qui est totalement construit et validé et qui correspond aussi aux engagements qui sont en train d'être pris en ce moment.
Et peut-être, parce que c'est vraiment c'est une très très bonne question, mais moi je trouve que pour moi c'est vraiment un signe d'une démocratie qui fonctionne bien si le gouvernement ou dans notre cas la Commission européenne soutient des projets qui probablement vont lancer des campagnes assez critiques au niveau des politiques européennes. On est tous pro-Europe, on soutient l'idée de l'Europe. On est quand même convaincu que, par exemple, la question migratoire, il faut des solutions au niveau européen. Aussi, pour la lutte contre le changement climatique, il faut aussi des actions au niveau local, national, etc. Mais à la fin, ce sont des défis dont il faut des solutions au niveau global. Alors, on est d'accord qu'il faut des solutions européennes et globales, mais en même temps, on est là pour critiquer ce qui se passe, pour critiquer, par exemple, la manque d'une politique européenne pour gérer les migrations d'une manière plus humaine, basée sur le droit de l'homme, etc. Mais comme j'ai dit avant, je trouve que c'est un signe d'une démocratie forte que les gens qui critiquent, qui lancent des campagnes pour sensibiliser, même mobiliser des gens, peuvent quand même recevoir de fonds de la Commission européenne. Et il faut aussi dire qu'il y a aussi des forces politiques qui ne sont pas d'accord, qui disent que les autorités, la Commission européenne, ne peuvent pas ouvrir des fonds à des organisations qui critiquent le système économique, qui lancent des campagnes, qui de la critique contre, par exemple, le problème d'exploitation de l'esclavage moderne dans nos produits du quotidien, etc. Et oui, comme ça, je trouve que c'est un bon signe de, oui, d'une démocratie européenne qui fonctionne très bien. Et une société civile qui est aussi soutenue, même quand on n'est pas toujours d'accord avec les politiques.
Là-dessus, je comprends tout très bien. La mobilisation, elle est là et c'est toujours intéressante. Comment on arrive alors à pouvoir faire sortir du lot cette communication de la migration climatique par rapport aux autres? Alors bien sûr, elle est tout à fait liée à d'autres enjeux climatiques, à d'autres enjeux de la lutte écologiste politique, mais comment on arrive à ce que celle-ci ait autant d'importance que les autres? Parce qu'on parle de vie humaine qui sont, oui, derrière tout ça, mais elles paraissent tellement abstraites. La crise migratoire, c'est quelque chose que j'entends depuis que je suis enfant. Alors, je fais partie, oui, de la Gen Z et je pense que toutes les personnes qui écoutent ce podcast ont à peu près le même âge et ont entendu vraiment quasi toute leur vie cette notion-là. Pourtant, quasi rien n'a changé. On arrive maintenant en 2023 avec un projet que vous mettez en avant. Ça paraît quasi nouveau, alors que non. Comment on arrive à faire sortir du lot cette communication par rapport aux autres enjeux?
Ouais. Je pense que ce qu'on a essayé avec ce projet, c'est de montrer les liens entre les multiples crises dans lesquelles on se trouve. Parce que très souvent, dans la vie politique, il y a des discours qui sont assez séparés. Par exemple, si on parle du climat, on parle des énergies renouvelables, on parle des voitures électriques, très souvent, on parle des solutions au niveau de la technologie, innovation, tout ça. Et très souvent, ce n'est pas forcément lié à ce qui se passe dans le reste du monde. Par exemple, beaucoup des politiques qui sont lancées contre le changement climatique au niveau européen, ils manquent le lien avec la question de la justice globale. Ils manquent le lien, par exemple, avec la question de la migration climatique. Juste pour vous donner un exemple, si on parle de la décarbonisation en Europe, on a besoin des énergies renouvelables, mais aussi de l'hydrogène verte, par exemple pour la production d'acier durable. Mais qui va produire l'hydrogène verte? Ce n'est pas l'Europe, parce qu'on manque le soleil, on manque l'espace. On ne va pas être capable de produire l'hydrogène verte. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà toute une stratégie de l'Europe de créer des partenariats avec des pays, surtout en Afrique, pour fournir l'hydrogène verte dont on a besoin pour nos industries. Alors, ce sont des pays qui ne sont pas encore capables de fournir l'électricité, l'énergie, surtout pas l'électricité verte, durable et pas trop chère, à leur propre population. Mais en même temps, nous, comme Européens, on est déjà prêts à recevoir cette énergie de ces pays-là. Alors, c'est une nouvelle forme d'injustice globale, d'injustice climatique. Et très souvent, ce sont des problèmes, des sujets dont on ne parle pas dans les médias. Tout le monde parle de l'hydrogène verte et comme ça va être la solution magique pour tout. Mais très souvent, les conséquences globales ne sont pas discutées ou discutées d'une manière... Ce sont des opportunités, des possibilités pour les pays en développement. Ce sont des possibilités pour le développement économique. Mais on ne parle pas de l'impact sur des communautés rurales, sur des paysans, etc. Et je pense, nous aussi, comme groupe d'ONG et chercheurs qui apportent des perspectives différentes, le développement, aussi le féminisme, la lutte contre le changement climatique, écologie, etc., on cherche de montrer ces liens et de demander des politiques qui sont plus liées. Oui, pas des politiques... séparés ou...
dans une tour d'ivoire.
Voilà. Et ça, c'est aussi l'idée du développement durable. C'est aussi l'idée de créer des liens entre, par exemple, la politique économique, sociale, environnementale, et trouver des solutions qui marchent pour toutes les dimensions du développement durable.
C'est intéressant, ça m'amène à l'autre question. En faisant notre petite enquête avec Julia, on a pu voir dans la présentation de toi, Patricia, sur EEB, que tu prenais en compte le fait que tu étais une femme occidentale privilégiée. On ne va pas se cacher, ici autour de la table, on est des occidentaux, blancs, privilégiés. Vous essayez de sensibiliser et de défendre dans vraiment les grandes lignes les migrants climatiques, mais parler de la migration climatique. Comment est-ce que vous interprétez votre rôle, vous, en tant que personne privilégiée, blanche, vivant en Occident, pas prêt à migrer parce qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire? Comment est-ce que vous interprétez, vous, votre place dans ce mouvement, dans ce projet? Est-ce que vous arrivez à bien représenter les droits des migrants climatiques, à bien représenter la réalité de ce qu'ils peuvent vivre, elles et ils peuvent vivre?
Bon, nous, on ne peut pas représenter leur perspective. Ce qu'on a cherché avec le projet, c'est aussi d'intégrer de voix des pays du Sud dans nos campagnes. Par exemple, dans les pays où on a fait la recherche, on a aussi trouvé des activistes qui ont choisi de devenir un peu ambassadeurs de leur pays dans nos campagnes et de parler de leurs expériences. Alors, ce n'est pas pour nous de parler de l'expérience d'une personne au Guatemala ou au Sénégal. Pour moi, comme européenne et avec les privilèges que j'ai, ma place, c'est ici, en Europe. Moi, j'ai le privilège d'avoir l'accès aux politiciens qui se trouvent ici, à Bruxelles ou en Europe, dans nos gouvernements, et d'utiliser cet espace pour changer les politiques en Europe. Ce n'est pas toujours facile pour les ONG hors de l'Europe, dans les pays du Sud, d'accéder à nos politiciens. On essaie aussi de créer des possibilités pour eux, pour venir ici, pour parler à nos politiciens. Mais ils ne peuvent pas être là tous les jours. Et oui, comme européenne, je vois ma responsabilité dans la création des politiques européennes qui fonctionnent aussi pour la justice globale. Parce que la transition écologique, le combat contre le changement climatique, ça ne se passe pas seulement en Europe, mais enfin, c'est un défi global. Et comme activiste en Europe, ce que je peux faire, c'est d'influencer nos politiques en Europe et d'ouvrir des portes pour d'autres voix, pour d'autres organisations dans les autres pays, de venir et de présenter leurs perspectives et de montrer s'il y a des politiques en Europe qui ont des impacts négatifs sur leur possibilité de se développer d'une manière durable.
Oui, moi j'ajouterais simplement qu'on a effectivement ce rôle d'être des ponts entre les différents univers. Il faut dire aussi qu'on est dans un processus d'amélioration. On essaie d'être nous-mêmes meilleurs. Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut essayer de prendre en compte, dans le sens où sur justement ce type de projet, ce type d'initiatives qui sont lancées, on essaie de les encadrer avec un certain nombre de règles qui vont mettre en avant justement la parole des personnes qui sont concernées plutôt que la nôtre en propre. Après, effectivement, il y a un positionnement, il y a une partie de recherche qui est effectuée, etc. Donc on n'est pas uniquement dans la représentation de ces migrants climatiques, mais on est aussi dans une démarche de recherche. Et là, la parole voilà, sera aux universitaires ou aux ONG qui disposent d'un savoir. Donc il y a différents rôles en fait, dans ce projet-là. Et je pense qu'il y a eu un effort particulier qui a été donné sur cette chose-là. Et c'est quelque chose qu'on voit se développer de plus en plus. C'est aussi une question de cohérence par rapport à notre engagement que de ne pas se substituer aux groupes que l'on essaie de représenter ou en tout cas, sans vouloir les représenter directement, essayer de faire valoir leurs droits ou d'amener le public à être sensibilisé aux défis qu'ils rencontrent. Donc voilà, il y a cet effort. C'est en construction, il faut le dire aussi en toute humilité, mais c'est quelque chose effectivement qu'on prend en compte dans nos démarches.
C'est intéressant, là on vient un peu de parler de votre place dans ce mouvement, dans ce projet. Parlons un peu de vous, Patricia Adrien. Comment cette conscience écologiste et politique a vu le jour? Est-ce que vous pourriez un peu nous donner peut-être un point clé, un moment dans votre passé où vous vous êtes dit « bon ben là maintenant, je vais commencer petit à petit à m'y intéresser un peu plus » ou carrément « voilà, je vais chercher un travail dans ce domaine-là ou me battre ou être plus activiste ». Est-ce que vous vous souvenez d'un moment clé qui vous a marqué et qui vous a fait changer de point de vue?
Oui, pour moi, l'activisme politique, ça a commencé avec l'intérêt pour les droits de l'homme, les droits de femmes, quand j'étais étudiante. Et en même temps, j'étais toujours intéressée aux questions écologiques et aux liens entre la question des droits de l'homme, droits de la femme et l'écologie. Et je pense à un moment clé, c'était, je parlais de cette expérience avant, j'ai eu l'occasion de travailler au Bangladesh pendant un an et demi, après mes études, et j'étais dans un projet de droits de femmes. Alors, ce n'était pas forcément un projet dans l'écologie, mais quand j'étais au Bangladesh, tout le monde parlait déjà du changement climatique. C'était bien, il y a 20 ans. Et le changement climatique était déjà là.
De manière concrète, on pouvait le voir, c'est ça?
Oui, c'était en 2000, enfin, c'était en 2007, presque 20 ans. Pas encore, 15. Et en été 2007, il y avait des grandes inondations au Bangladesh. Ça, c'est un phénomène naturel qui existe depuis longtemps, mais le changement climatique crée des inondations qui ne peuvent plus gérer de leur manière traditionnelle. J'ai vu les résultats et l'impact sur les gens qui habitent dans les zones qui sont plus inondées maintenant tous les ans, et surtout sur les femmes et les enfants, parce que très souvent les hommes ont déjà migré dans les villes, dans les centres industriels. Alors ce sont les plus pauvres et surtout les femmes et les enfants qui restent sur les îles, qui restent dans les zones en danger. Ça m'a fait comprendre la réalité du changement climatique que j'ai étudié à l'école avant, mais c'était très abstrait. C'était des gaz dans l'atmosphère, c'était des chiffres, mais c'était pas la vie quotidienne des gens. Et à partir de cette expérience-là, pour moi, c'était clair que je vois mon avenir professionnel dans le monde des ONG, dans le monde de l'activisme écologique.
Oui, pour moi, c'était peut-être moins radical. C'est-à-dire que j'ai vu les choses venir petit à petit. Il y a un très beau poème turc que j'apprécie qui s'appelle « Birden Bire » et qui veut dire « soudainement ». Toutes les choses arrivent soudainement. Et ce poème, en fait, il parle à la fois de la distraction des hommes qui regardent ailleurs et qui ont l'impression que tout arrive d'un coup. Pour moi, je pense que l'engagement n'est pas arrivé d'un coup, justement. Il est venu petit à petit à travers un tas d'expériences, que ce soit dans des emplois précédents ou des situations. Et malheureusement, on est confronté très régulièrement à des situations qui sont révoltantes, en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a poussé à agir. C'est que on voit des situations de personnes, soit, donc dans mon cas, c'était sur la question de migration, lorsque j'étais à Istanbul, travailler auprès donc, des réfugiés syriens, par exemple, qui sont arrivés massivement en Turquie, et pour lesquels, en fait, il n'y avait pas forcément de soutien, de support. Donc il a fallu se mettre à travailler tout d'un coup avec les municipalités, avec toutes les bonnes volontés, pour faire face en fait à tous les besoins qui pouvaient émerger. Sur les questions climatiques, vous entendez encore de nos jours des responsables politiques qui vous disent qui aurait pu prédire la crise climatique. Il y a eu des films hollywoodiens qui ont été réalisés et pourtant, c'est des choses qu'on vit encore régulièrement à la télé. Et ça, je trouve ça révoltant en fait. Et je crois que il y a un moment peut-être qui a été aussi important chez moi, c'est la sensation d'avoir un impact, une influence sur le monde qui nous entoure. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est capital dans la volonté de se mettre à l'œuvre finalement, de sentir que il y a du répondant, que nos actions, notre comportement peut avoir une conséquence, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Et donc ça, je pense que c'était quelque chose qui s'est passé tout au long de ma vie et de mes expériences. Je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit j'invite aussi les auditeurs de ce podcast à ne pas attendre un événement magique qui les fasse prendre conscience ou autre. C'est un choix et il suffit de dire c'est maintenant et ça ira.
Merci beaucoup. Patricia et Adrien, merci beaucoup pour votre patience, pour votre disponibilité, pour donner un peu les petites coulisses de cette émission. La lumière du studio et du bureau ont coupé et maintenant vient de revenir et va sûrement se recouper bientôt. Ça a été très compliqué, vous avez été d'un professionnalisme et d'un talent oratoire magnifique. On termine toujours les émissions du Wombat Café avec une recommandation culturelle et une recommandation d'une invitée, d'un invité. Si vous avez envie, peut-être l'un peut partager une recommandation culturelle, l'autre peut partager une recommandation d'invité, d'une invitée. Peut-être que vous avez tous les deux une recommandation à donner. Je vous laisse en tout cas l'opportunité. The floor is yours.
Moi, j'ai une recommandation pour un film, un documentaire qui est dans les cinémas pour l'instant, qui s'appelle The Illusion of Abundance. Et c'est un documentaire qui est dédié aux gens qui sont tués chaque année. Environ 200 défenseurs de droits de l'homme et d'environnement sont tués chaque année dans le monde pour leur lutte contre la destruction d'environnement, la lutte contre des projets comme des mines qui sont très souvent invisibles. Et très souvent, leur lutte est liée à une économie et les ressources qui finalement arrivent en Europe, comme par exemple des ressources, des minéraux, par exemple. Et c'est un documentaire qui veut montrer la face humaine de leurs histoires. Par exemple, ce soir, il est aussi dans un cinéma à Bruxelles, et je pense qu'il est aussi disponible sur ligne. Alors, The Illusion of Abundance, c'est un très bon documentaire et je pense le réalisateur est aussi un Belge, Mathieu Lietter, qui est connu pour ses documentaires aussi sur le lobbyisme à Bruxelles.
Et pour être un super bon invité pour le bon pot de café.
Peut-être, ouais, pourquoi pas.
Fantastique, tu as mis la barre haut, Patricia. écoute, moi je vais parler d'un autre film d'un réalisateur belge qui s'appelle Nous tous. C'est un film qui parle du vivre ensemble, qui m'a beaucoup touché dans le sens où ça met en perspective un certain nombre d'histoires à travers le monde et qui montre en fait la force des gens, la résilience qu'ils ont dû avoir pour continuer à vivre dans des conditions parfois très compliquées. Donc il y a des histoires qui viennent des Balkans, d'Israël et d'autres pays qui ont connu ou qui connaissent des conflits. Et c'est un film que j'ai trouvé assez beau, assez aussi simple dans son expression, et qui peut amener justement les gens à se dire « Mais mince, justement, moi, je suis dans un contexte privilégié. Il y a plein de choses que je pourrais faire me mettre en marche, justement, de contribuer à ce que le monde prenne la forme qu'on souhaite lui donner. »
Merci beaucoup. On va terminer cette émission juste avant de rendre l'antenne. malgré que ce soit une expression qui date de la radio en ligne, ça n'a plus aucun sens quand on parle de podcast, mais est-ce que peut-être on pourrait quand même donner là où on peut retrouver le mouvement, le projet Climate of Change? Il y a un site internet et y a-t-il peut-être une page LinkedIn, Instagram, des réseaux sociaux? Dites-nous tout, où est-ce qu'on peut retrouver ce projet?
Il y a tout à fait un site web, climateofchange.org. Mais si vous cherchez le hashtag, vous allez trouver les campagnes sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi les rapports qu'on a fait, nos chercheurs, les 4 pays, qui sont très lisibles, même pour un public
non averti. Ouais.
Voilà. Alors, je vous invite aussi à regarder les GATT publications qu'on a faites sur les GATT pays et les histoires de nos ambassadeurs des GATT pays et de lire un peu leur expérience.
Super.
On pourrait peut-être même ajouter que les auditeurs sont invités aussi à entrer en contact avec les partenaires. Parce que c'est important aussi qu'il y ait ce lien. On n'est pas seulement des logos sur un papier, mais on a aussi des structures avec des gens qui travaillent et des personnes qui peuvent effectivement interagir avec nous sur ce sujet, sur d'autres. Et voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir donner du répondant, d'expliquer qu'il y a une suite à tout ça. Si les gens souhaitent continuer de s'engager, eh bien, on sera là.
Super, un très grand merci. Auditrices et auditeurs, vous hésitez à vous engager ou vous êtes en plein dedans dans cette lutte écologiste politique, n'hésitez pas, des gens seront là pour vous répondre et vous pourrez retrouver un très grand réseau de personnes qui pensent comme vous et qui seront là pour vous soutenir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Encore une fois, et une dernière fois, et c'est là-dessus qu'on va terminer, un grand merci Patricia, un grand merci Adrien pour votre présence et pour votre répondant. Vous avez été de super invités. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.